diffusée tous les jours, Que diable fait, du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Mydia Portis-Guérin, avec aujourd'hui Jacques Vincent à la technique, et réalisés par Géraldine Mosna-Savoie, Mathilde Unger, Geneviève Méric, Claire Delnat, Marine Boistet, Adèle Van Rett. Adèle qui vous parlera de la philosophie comme un exercice de vertige tout à l'heure en compagnie de François Gachou à 10h50 dans le journal des Nouveaux Chemins. Quant à nous, c'est le début d'une semaine sur Rimbaud dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Arthur Rimbaud, le passant considérable, l'anti-Descartes, la première véritable occurrence d'une liberté qui s'éprouve par le dégoût. Rimbaud, le poète béni, dont Bernard Tessèdre, Pierre Brunel, Dominique Noguez, Michel Murat et Yann Frémy viendront successivement vous parler à ce micro, dont Jérôme Kircher vous lira quelques-unes des perles et dont son biographe Jean-Luc Steinmetz vient aujourd'hui vous raconter un peu l'histoire. Je meurs, je me décompose dans la platitude, dans la mauvaiseté, dans la grisaille. Que voulez-vous ? Je m'entête affreusement à adorer la liberté libre. Et un tas de choses que ça fait pitié, n'est-ce pas ? Je devais repartir aujourd'hui même, je le pouvais. J'étais vêtu de neuf, j'aurais vendu ma montre et vive la liberté. Donc je suis resté. Je suis resté. Et je voudrais repartir encore bien des fois. Allons, chapeau, capote, les deux poings dans les poches et sortons. Mais je resterai. Je resterai. Bonjour Jean-Luc Steinmetz.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance. C'est une joie de vous accueillir, comme ça a été une joie de vous lire, je dois le dire, tout de suite. Arthur Rimbaud, une question de présence, sa biographie aux éditions Talendier, on en est à la 4e édition. Et c'est la moindre des choses, car c'est un texte vraiment remarquable et délicieux à lire. Une bonne façon d'entrer dans le génie d'Arthur Rimbaud. Alors, on va partir non pas d'un oxymore, mais d'une redondance. Cette image étrange de liberté libre. Qu'entend Rimbaud dans cette lettre à Isambard, une lettre du 2 novembre 1870, il a 16 ans, quand il parle à son professeur et qu'il dit « J'ai toujours adoré la liberté libre ». Pourquoi ce redoublement, selon vous, Jean-Luc Steinmetz ?
Oui, d'abord, disons que c'est très difficile d'interpréter exactement la pensée de Rimbaud. Mais ce qu'on peut remarquer à propos d'une expression comme ça, c'est sa justesse surprenante. Et ce qui fait que l'on s'attache tant à Rimbaud, les poètes et les autres, c'est justement la forme de ses formules. La rapidité, l'exactitude, sa façon de prendre le vocabulaire. Donc la liberté libre, c'est une de ses formules, mais on peut se rappeler par exemple « Au réveil, il était midi ». C'est une phrase tellement simple. Et pourtant, elle marque, il arrive à trouver dans la langue française les éléments les plus vivants et les plus forts. Alors, je crois que c'est ça qu'il faut retenir dans cette expression, au-delà de toute analyse qu'on pourrait en faire. Mais bien sûr, la liberté est là, importante chez Rimbaud, mais il a parfaitement conscience que la vie d'homme ne peut pas véritablement briser les différentes étreintes qu'impose la société et qu'impose même une certaine forme de culture. Par exemple, les Parnassiens, le milieu des Parnassiens dans lequel il écrit. La forme de la vie de Rimbaud, ce sera toujours de vouloir s'échapper. Et il s'échappe en vain puisque le cercle se referme très vite. C'est ce qu'on pourra voir au cours de cette émission.
Ce que vous dites là, Jean-Luc Steinmetz, c'est exactement la raison pour laquelle je tenais à commencer par la lecture de cette lettre, où il dit qu'il veut partir et qu'il est resté, qu'il voudra partir et qu'il restera. C'est quelqu'un qui devance en permanence le fait de revenir constamment à son point de départ. Alors peut-être est-ce une façon pour lui de renouveler le départ, mais enfin, voilà quelqu'un qui toute sa vie a fait, non pas un mauvais usage de sa liberté, mais peut-être le meilleur usage poétique de sa liberté, mais qui quand il vit sa liberté sur le mode de l'errance, du voyage, du vagabondage, de la bohème au fond, se retrouve constamment rappelé comme rappelé à l'ordre ou rappelé à un ordre blafard et sommé au fond de revenir dans les Ardennes funestes qu'il déteste tant. Comment expliquer ça, Jean-Luc Steinmetz, ou comment sans l'expliquer, peut-être au moins le comprendre un peu?
Écoutez, il y a deux choses, je vois immédiatement deux choses. C'est chez lui une espèce d'automatisme de répétition qui fait que presque inconsciemment, il faut qu'il revienne au lieu, même, c'est pas simplement Charleville, c'est le lieu foncier, par exemple, de Roche, hein, et qu'il déteste avec tous ses paysans, etc. C'est le milieu maternel, et le rapport à la mer est un rapport de haine et d'amour qui restera toujours jusqu'à la fin, n'est-ce pas, jusqu'aux heures de la mort. Alors, ça, évidemment, ça compte beaucoup. Et puis, alors, la deuxième chose que je vois, c'est que s'éveille très tôt chez cet homme, chez ce jeune homme, chez l'enfant d'abord, et puis chez le jeune homme, un désir de changer la vie, de transformer les choses, de transformer les rapports que l'on a au monde et aux êtres. Et en même temps, cela va tellement loin qu'il ne pourra pas réaliser cela. C'est-à-dire qu'avec Rimbaud, c'est une des choses qui nous touche le plus chez lui, il y a un désir qui vient par la poésie, qui pense se manifester par la poésie, mais qui, évidemment, avec de tels moyens, ne peut parvenir à satisfaire exactement ce qu'il veut.
Mais est-ce qu'il n'y a pas dans les textes de Rimbaud, dans sa correspondance par exemple, notamment des textes comme des lettres comme celles que j'ai lues au début de l'émission, et bien d'autres, la préscience de cet échec, le pressentiment d'un tel échec, qui expliquerait aussi peut-être le climat d'arrogance qui entoure sa personne et d'insolence souveraine ou désespérée qui peut le qualifier parfois?
Alors, nous voyons l'échec, n'est-ce pas?
Rétrospectivement aussi. Hein,
très souvent, nous voyons l'échec, comme nous voyons l'échec de la poésie de Mallarmé également. Mais il faut voir que chez tous ces créateurs, il y a quelques fragments, n'est-ce pas, d'impossibles, d'indicibles, qui ont quand même été arrachés. Et c'est ça leur réussite extrême. C'est-à-dire, le parcours de Rimbaud va très vite, très loin. Et en même temps, l'échec, c'est de ne pas pouvoir, de ne pas avoir rencontré ceux qui peuvent faire écho à ce qu'il veut, n'est-ce pas? Donc le rapport avec Verlaine, le rapport avec Nouveau est raté parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce que veut promettre sa poésie.
Celui que vous appelez Nouveau, c'est quelqu'un. Disons-le ici pour nos auditeurs qui n'auraient pas en tête toute la vie d'Arthur Rimbaud, Jean-Luc Steinmetz.
Oui, c'est Germain Nouveau, bien sûr, hein, avec lequel il a vécu pendant quelques mois en Angleterre, puisqu'il a été à Londres une première fois avec Verlaine. Et puis ensuite, il y a eu ce fameux drame dont on parle, le drame de Bruxelles. Et puis il est retourné de nouveau en Angleterre. Et là, il a eu comme compagnon Germain Nouveau, dont on ne parle pas assez d'ailleurs. Saralam, saralam,
ces poètes-là, voyez-vous, ne sont pas d'ici-bas. Laissez-les vivre leur vie étrange, laissez-les avoir froid et faim, laissez-les courir, aimer et chanter. Ils sont aussi riches que Jacques Coeur, tous ces folles enfants, car ils ont des rimes plein l'âme, des rimes qui rient et qui pleurent, qui nous font rire ou pleurer. Laissez-les vivre. Dieu bénit tous les miséricords et le monde bénit les poètes. Jean-Luc Steinmetz est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce lundi au commencement d'une semaine sur Arthur Rimbaud. Les quelques lignes que je viens de lire, Jean-Luc Steinmetz, c'est le fameux prologue de Rimbaud. Je crois qu'il a 10 ans, 10, 11 ans quand il écrit ça peut-être, et qu'il apprend à l'école à se planquer au fond, hein, à planquer son génie derrière l'attitude de l'excellence, derrière les atours de l'excellence. Première expérience de la dissimulation rimbaldienne, Jean-Luc Steinmetz.
Oui, c'est-à-dire Rimbaud va quand même profiter de ce milieu de l'école pour découvrir ce qu'on appelle la culture, parce que dans le milieu de sa mère...
Une culture classique, hein.
Oui, une culture classique. Et une culture qui va passer par la composition des vers latins, ce qui compte beaucoup quand même quand on regarde le parcours de Rimbaud, parce qu'il y trouve une excellence remarquable, n'est-ce pas ? Ses premiers textes publiés sont des exercices de vers latins sur des thèmes imposés, et cela lui fait particulièrement comprendre la force des syllabes, n'est-ce pas, ce qu'on peut appeler le signifiant même.
Il faut rappeler que Rimbaud était un latiniste de compétition,
oui.
Qui excellait au point d'ailleurs, par exemple, de comparer, alors ça c'est assez fort parce qu'on retrouve ici et le latiniste et en un sens l'homme révolté et le poète, au point de comparer par exemple Abdelkader à Jugurtha, l'un s'opposant à Rome comme l'autre s'oppose à l'empire colonial français, Jean-Luc Steinmetz.
Oui, là c'était un exercice imposé et donc il a eu l'idée de faire... Se joindre les deux personnages. D'ailleurs, il y a plusieurs contestations sur ce point, sur le sujet même de cette composition en vers latin. Mais en tout cas, c'est important de voir qu'il connaît particulièrement le latin, beaucoup plus que le grec d'ailleurs, et que donc il a un sens du vocabulaire qui lui vient de là, et un sens des syllabes dont je parlais tout à l'heure, très, très remarquable. Et qui va se retrouver dans toutes ses compositions, d'ailleurs.
Ce qui fait de Rimbaud, disons-le tout de suite, un poète archi-classique, à bien des égards, à bien des titres, en tout cas quand il s'agit de ce qu'on a appelé les poésies, où l'extravagance du vocabulaire vient avec aussi, parfois, un respect des formes classiques et de la prosodie tout à fait rigoureux. En un sens, d'ailleurs, à d'autres titres aussi, on va peut-être cette émission nous donnera l'occasion de le voir plus précisément, l'héritier de Baudelaire, Jean-Luc Steinmetz.
Oui, l'héritier de Baudelaire, mais Baudelaire commence à être connu à cette époque-là. Et surtout, Rimbaud lit les volumes, ou plutôt les fascicules, du Parnasse contemporain. Et le Parnasse contemporain, c'est une sorte d'anthologie permanente de la poésie de son époque, n'est-ce pas ? Alors là, il apprend à faire un tri, d'ailleurs, par lui-même, parmi les meilleurs et ceux qui sont évidemment à rejeter. Alors, il perçoit très vite l'importance d'un Verlaine, par exemple. Mais d'autres dont on parle moins, comme Mera, comme Valade. Et l'une des caractéristiques de Rimbaud aussi, c'est la rapidité avec laquelle il va parcourir toutes les écoles poétiques, partant du romantisme et atteignant très vite ce que font les Parnassiens et les dépassant. Et il propose dans une lettre à Théodore de Banville, qui règne dans le milieu du Parnasse, un texte qui s'appelle « Credo in unam », qui est un véritable manifeste. « Je crois en une », c'est-à-dire en la femme. On a parlé de l'homosexualité de Rimbaud, mais là, quand il dit « in unam », ça veut dire « en une seule femme », c'est-à-dire la beauté, c'est-à-dire Vénus. Et c'est pas mal de voir cet adolescent, n'est-ce pas, célébrer cette image de la femme, évidemment en rapport et en contradiction avec le credo in unum religieux.
Le soleil, le foyer de tendresse et de vie, verse l'amour brûlant à la terre ravie. Et quand on est couché sur la vallée, on sent que la terre est nubile et déborde de sang, que son immense sein, soulevé par une âme, est d'amour comme Dieu, de chair comme la femme, et qu'il renferme gros de sève et de rayons, le grand fourmillement de tous les embryons.
Moi j'ai une toute petite ligne de chance, moi j'ai une toute petite ligne de chance, si peu de chance dans la mer, ça me fait peur des lendemains.
de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance. C'est fou ce que j'aime, ta ligne de hanche. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
J'aime la caresser de mes mains. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
C'est une fleur dans mon jardin.
Arthur Rimbaud, une question de présence, c'est le titre de la biographie de Jean-Luc Steinmetz, notre invité d'aujourd'hui au commencement d'une semaine sur Rimbaud.
De chance, regarde ce tout petit destin, si petit au creux de ma main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance. Tais-toi et donne-moi ta main. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
C'est un oiseau dans le matin.
La lettre à laquelle vous faites référence, Jean-Luc Steinmetz, hein, donc la lettre à Théodore Banville, est une lettre à laquelle Banville répondra par la négative. Rimbaud lui envoie une lettre d'admiration en espérant être publié. C'est un échec. Pourtant, Rimbaud lui envoie des choses absolument extraordinaires, notamment son Ophélie, par exemple, dont Banville ne veut pas. Comment expliquer ce refus de Banville et comment Rimbaud l'a-t-il vécu, Jean-Luc Steinmetz?
Je ne sais pas si c'est un refus, c'est-à-dire que Rimbaud est très jeune, d'une part, et il se présente comme très jeune, et d'autre part, la première anthologie qui regroupe les fascicules du Parnasse contemporain est finie et bouclée. Donc, c'est très difficile qu'il soit inclus dans cet ensemble.
De sorte que c'est pour des raisons techniques qu'ils n'ont pas voulu de ces textes à cette occasion-là.
Peut-être. Hein, moi, j'ai pas. On ne connaît pas de compte rendu. Hein. De compte rendu de lecture de ce qu'il a envoyé. En tout cas, Banville lui a répondu, mais on ne connaît pas non plus la substance de cette lettre. Ce qui est sûr, c'est que un an plus tard, eh bien, Rimbaud va lui envoyer de nouveau une lettre et où il place un poème qui nous montre à quel point il a avancé dans sa conception de la poésie. C'est ce qu'on dit aux poètes à propos de fleurs.
Alors justement, quelle différence faut-il faire, par exemple, entre un texte comme Ophélie et ce qu'on dit aux poètes à propos de fleurs, selon vous, Jean-Luc Steinmetz? Dans quelle mesure est-ce que sa conception de la poésie évolue à cet instant? C'est très important de le préciser parce que Rimbaud a 16, 17, 18 ans, même pas encore d'ailleurs, et tout se joue à ce moment-là. Tout se joue, et la théorie, et la poésie, et la pratique, en un sens.
Oui, mais il y a quelque chose qui se joue aussi en dehors de lui et qui va bouleverser les choses. C'est la guerre de 70, c'est la naissante Troisième République, et puis bientôt la Commune. Donc il se trouve que la liberté libre de Rimbaud, elle va passer aussi de l'expérience individuelle à un rapport avec la communauté, avec la société. Et à ce moment-là, il va se trouver son désir de renouvellement des choses, un désir un peu fou qui n'est pas spécialement médité, qui ne sait pas très bien où faire porter sa force. Cela va rencontrer le grand mouvement social avec lequel il va se trouver immédiatement d'accord. C'est comme si l'histoire était à l'unisson de son vœu de changer la poésie.
Au fond, son amour de la Commune et cette liberté libre dont nous parlions au début et autour de laquelle nous tournons pour qualifier la vie de Rimbaud, cette liberté libre, peut-être à la fois donc la liberté du poète qui, fidèle à sa propre démarche, aussi fidèle que possible à sa propre démarche, libère la liberté qui est à l'œuvre en lui, bon, mais ça peut être aussi celle du poète qui, prenant la poésie pour la norme du réel, culmine dans le désir révolutionnaire, la passion révolutionnaire qui s'incarne dans la Commune, dont Rimbaud manque les événements, mais qu'il célèbre dans ses poèmes, Jean-Luc Steinmetz.
Ça encore, la participation de Rimbaud à la Commune, on n'en sait pas grand-chose.
C'est à vous que je dois de savoir qu'il a manqué les événements quand même. Hein. C'est dans votre biographie, c'est ce que vous dites.
Il a à peine manqué les événements. Il n'était pas là, heureusement pour lui, pendant la semaine sanglante, mais il est fort possible qu'après être venu en 1871, en février, à Paris, et où il a vécu tout ce mouvement, n'est-ce pas, la Commune n'étant pas encore proclamée, il est possible qu'une deuxième fois, il soit venu et qu'à ce moment-là, il ait été en rapport avec les communards et avec les francs-tireurs. Donc, un certain nombre de ses poèmes marquent particulièrement ce moment-là. Et c'est un moment aussi où on sait que Verlaine était en rapport avec la Commune. Donc, ce sont deux écrivains militants, si on peut dire. Quoique cet engagement ne soit pas un engagement strictement politique et qu'il dépasse de beaucoup ce cadre idéologique. Mais là, il y a une coïncidence extrême et qui se marque par de formidables poèmes comme Les mains de Jeanne-Marie, par exemple.
Les mains de Jeanne-Marie. Alors, en quoi ce texte-là est-il si singulier ? Il célèbre la Commune dans beaucoup de lieux. Les mains de Jeanne-Marie sont ces mains dont on fait, si j'ai bonne mémoire, je n'ai pas le texte sous les yeux, dont on fait saigner les doigts, ultimement. Un poème qu'on peut lire donc comme une longue métaphore de ce qu'est la Commune et de l'échec de la Commune.
Ah, ce sont les femmes qui ont participé à la Commune, n'est-ce pas ? On peut penser à Louise Michel derrière cela. Et toutes ces femmes qui étaient des militantes, donc des communardes, le poème est tout à fait inscrit dans l'histoire. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de poèmes de Rimbaud, chants de guerre parisiens aussi, particulièrement inscrits dans l'histoire, et on les retrouve dans les fameuses lettres du voyant qu'il écrit aux alentours de la fin de la Commune.
Les lettres du voyant, vous verriez une concomitance entre la lettre du voyant, les lettres du voyant, hein, puisqu'il y en a deux. L'épisode de la Commune. Quel rapport faut-il faire, puisqu'on est là encore dans Libérer la liberté, au fond, et dans sa traduction politique ou poétique, quel rapport faut-il faire entre l'épisode de la Commune et le lent et immense et raisonné dérèglement de tous les sens dont Rimbaud vante les mérites et qu'il institue comme une méthode dans la lettre du voyant, Jean-Luc Steinmetz?
Voilà, alors je crois que là, il y a un mot qu'il faut prononcer, qu'on ne prononce pas toujours, qui est le mot d'encrapulement. Donc il veut s'encrapuler comme s'il passait par une voie noire, n'est-ce pas, pour atteindre la poésie, pour atteindre la vraie poésie. Et donc la fausse poésie, c'est celle qui est en accord avec la société, avec la bourgeoisie, etc. Et il y aurait une nouvelle poésie et que permettrait d'atteindre une pratique révoltée. Et cette pratique révoltée, il la voit à l'œuvre avec les prolétaires, n'est-ce pas?
La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver, cela semble simple. En tout cerveau s'accomplit un développement naturel. Tant d'égoïstes se proclament auteurs. Il en est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel. Mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse, à l'instar des comprachicos, quoi. Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences.
Madame se tient trop debout dans la prairie prochaine où neigent les fils du travail, l'ombrelle aux doigts, foulant l'ombelle, trop fière pour elle, des enfants lisant dans la verdure fleurie. Leur livre de maroquin rouge, hélas, lui, comme mille anges blancs qui se séparent sur la route, s'éloigne par-delà la montagne. Elle, toute froide et noire, court après le départ de l'homme.
On va s'attarder un peu, Jean-Luc Steinmetz, sur les deux textes qu'on vient d'entendre.
Oui.
La deuxième lettre du voyant, et puis le troisième partie de Mémoire, un texte dont vous faites grand cas dans votre biographie, Jean-Luc Steinmetz. D'abord, la lettre du voyant, cette étude de l'homme. Que signifie à vos yeux la référence aux Comprachicos qui renvoie à Hugo, à la figure de l'homme qui rit? Rappelons que les Comprachicos sont ceux qui tordent le visage, qui travaillent le visage au point de fabriquer un rire éternel. Ce sont les inventeurs de l'homme qui rit, qui fendent la bouche jusqu'aux oreilles. Pourquoi Rimbaud se sert-il de cette image? En quoi ce travail de torture d'individus sur le visage l'inspire et lui sert de méthode? Pourquoi, au cœur même de sa méthode, il situe les Comprachicos, selon vous?
Oui, y a une question qui concerne la déformation même de la poésie. C'est-à-dire la poésie, jusqu'à maintenant, a vécu selon une certaine idée de l'harmonie, alors que lui, n'est-ce pas, veut aller du côté d'une espèce de baroque inquiétant et se rendre terrible, n'est-ce pas? Cette façon de prendre le vocabulaire à rebours implique aussi, ce qui va devenir très important pour lui, un acte de vie, mais un acte de vie en état de révolte, impliquant une transformation profonde de l'individu lui-même et de la société. Alors, ce qui est très important dans la lettre du voyant, c'est que on s'aperçoit que la poésie n'est plus simplement aussi un acte d'écriture, mais qu'elle doit répondre à une transformation intérieure. Certains penseront à l'ascèse. Lui pratique une espèce d'ascèse noire, n'est-ce pas, terrible. Et je reviens à cette idée d'encrapulement, c'est qui lui fait atteindre un certain dépassement. En tout cas, il a l'idée d'un dépassement. Ce dépassement, on le trouve aussi dans la vision prométhéenne romantique. Mais ce dépassement permet de faire jaillir ou permet de montrer, n'est-ce pas, des parties insoutenables presque de la pensée et de l'individu. Il faut s'apercevoir qu'il nous place sur une espèce de limite insupportable. Simplement, cette limite insupportable, ce vœu de dépassement que Baudelaire, lui, pouvait appeler l'infini ou l'inconnu, il n'est pas évident que ça va correspondre avec le sublime de la beauté. Ça va être tout à fait autre chose. Donc lui aussi s'avance vers un certain inconnu qu'exprime bien d'ailleurs le cœur du pitre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que là, il y a un épisode, peut-être...
Le cœur du pitre, mais c'est un viol.
Oui, oui.
C'est un viol. Manifestement, cet homme a été violé. En tout cas, c'est le texte. Le texte le laisse entendre avec tant de
oui.
De hurlements prosodiques.
Ce qui est étonnant, n'est-ce pas, c'est que ce viol, peut-être, de lui-même, par des communards ou des soldats dans la caserne de Babylone, c'est que ce viol, il ne se révolte pas tellement contre, mais il en prend compte, n'est-ce pas? Il en tient compte. Et il s'aperçoit que cette voie sombre, dont nous parlera par la suite Georges Bataille, par exemple, eh bien, ça doit être aussi la voie de la poésie. Donc, il est en train de lutter, de mettre en place, contre la belle poésie, tout un dispositif, par divers moyens, qui seront l'encrapulement, qui seront la voyance, et qui seront l'hallucination simple et l'hallucination des mots.
Mon triste cœur bave à la poupe, mon cœur est plein de caporal, ils y lancent des jets de soupe. Mon triste cœur bave à la poupe, sous les quolibets de la troupe, qui pousse un rire général. Mon triste cœur bave à la poupe, mon cœur est plein de caporal.
Oui, alors là, nous sommes dans...
C'est l'enfer.
C'est une sorte d'enfer. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il profite de cet enfer, n'est-ce pas? C'est qu'il en tire quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une déploration. Il sait que c'est une des tendances de l'homme et il en fait quelque chose. Et il en fait cette poésie.
Cette poésie, il la rebaptise le cœur supplicié dans la lettre à Isambard, la première lettre du voyant, non pas celle qu'on a entendue tout à l'heure, mais la lettre du 13 mai 1871, dans laquelle il dit « Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout, je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. » Il n'a pas encore tout à fait trouvé la formule, hein, mais c'est là, il dit déjà « Je est un autre
hein. ». Oui.
C'est ici, c'est dans cette lettre-là qu'il le dit. Et il ajoute à cela donc le poème « Le cœur du pitre », rebaptisé « Le cœur supplicié ». Comment expliquez-vous, Jean-Luc Steinmetz, ce changement de titre chez Rimbaud et le fait qu'il le mette pour illustrer la démarche du voyant, justement.
Nous parlions tout à l'heure de l'encrapulement, n'est-ce pas, des comprachicos, et voilà le supplice, le martyr du poète, qui renvoie d'ailleurs à Prométhée, hein, ça j'y reviens.
Pourquoi Prométhée ?
Le Prométhée de voleur de feu, hein. Qui en même temps est supplicié sur le Caucase. Et à partir de cela, eh bien, il y a quelque chose à apporter aux hommes. Ça, il a une idée très évidente que la poésie doit procéder à une métamorphose, doit procéder à un change. C'est peut-être ça qui va être mal compris des autres, du reste. Parce que jusqu'à maintenant, eh bien, la poésie se trouve dans un milieu esthétique. Et lui déplace l'esthétique du côté d'une éthique qui suppose la transformation profonde et quasi sacrificielle de l'individu.
Justement, illustration.
Jouet de cet œil d'eau morne, je n'y puis prendre. Ô canot immobile, ô bras trop court, ni l'une, ni l'autre fleur, ni la jaune qui m'importune, là, ni la bleue, a mis à l'eau couleur de cendre. Oh, la poudre des saules qu'une aile secoue, les roses des roseaux des longtemps dévorés, mon canot, toujours fixe, et sa chaîne tirée au fond de cet œil d'eau sans bord. À quel bout ?
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon. Dans les bons soirs de juin, l'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière, le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche piquée d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petite et toute blanche. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève et du champagne et vous monte à la tête. On divague, on se sent aux lèvres. Un baiser qui palpite là comme une petite bête.
Jean-Luc Steinmetz, dans la première lettre du voyant, hein, la première, celle qui date de mai 71, donc je crois du 13 mai 71,
oui.
Rimbaud instaure un programme dont la radicalité surprend, un programme révolutionnaire. La façon qu'il a de conjurer tout ce qui s'est fait jusqu'ici et d'instaurer une nouvelle méthode, c'est de pratiquer donc ce lent raisonné des règlements de tous les sens, même s'il n'a pas encore ses adjectifs pour le qualifier. Mais il parle déjà d'un dérèglement de tous les sens. Voilà un homme qui institue un ordre nouveau par le dérèglement de tous les sens. Est-ce qu'on a raison intuitivement, à cet égard, d'en faire l'anti-Descartes par excellence, dont le projet était sensiblement le même, puisqu'il s'agissait malgré tout d'instaurer l'ordre nouveau d'une démarche véridique, sauf que l'ordre nouveau de Descartes reposait justement sur la découverte de quelque chose d'absolument ferme et assuré que toutes les extravagantes suppositions des sceptiques ne pourraient pas ébranler. Est-ce qu'au fond, Rimbaud et Descartes n'ont pas le même projet d'un recommencement, d'une table rase, conduit chez Rimbaud par le dérèglement de tous les sens, conduit chez Descartes par la ressaisie intuitive de soi, d'une identité stable et fixe.
Mais vous savez, là, vous êtes dans deux domaines qui, malgré tout, sont très opposés.
Vous voulez dire la philosophie et la poésie ?
La philosophie et la poésie. Bon, ça arrive parfois qu'il y ait un rapprochement avec Hölderlin ou avec Lucrèce. Mais je crois que la voix de Rimbaud n'est pas celle de la philosophie, même s'il évoque Descartes, évidemment. Hein. Il faudra dire « on me pense », non pas « je pense », il faudra dire « on me pense ». Là, je vais me permettre d'intervenir au milieu de cette émission, n'est-ce pas ? Parce que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant nous donne une image très mêlée, n'est-ce pas, de Rimbaud. Et au fond, il y a une scission, précisément au moment de la lettre du voyant. Et puis, il y a d'autres phases aussi. Et quand on entend, par exemple, le poème roman interprété par Léo Ferré, nous revenons en arrière, n'est-ce pas ? Puis, nous avons eu des extraits de mémoire, et là, nous sommes en avant. Or, et entre les deux, il y a eu le cœur du pitre, que nous avons cité tout à l'heure, qui est un moment décisif. Donc évidemment, Rimbaud va très vite, mais il y a un certain nombre de phases comme ça, une chronologie, il faut bien appeler les choses comme ainsi, et qui permettrait peut-être de mieux comprendre comment les choses se passent.
Pourquoi faudrait-il suivre la chronologie pour comprendre Rimbaud, Jean-Luc Steinmetz ? Après tout, Ophélie n'est pas un poème moins dément que certaines illuminations, même si les méthodes ne sont pas les mêmes et la versification, par définition, n'est pas la même, puisque les illuminations sont en prose, par exemple.
Oui, le même si est important, mais par exemple, Ophélie répond à tous les critères de la poésie traditionnelle. Alors que pour atteindre l'expression des illuminations, il a fallu rejeter beaucoup de choses, critiquer beaucoup de choses. Or, c'est assez difficile de faire l'économie de ce passage. Je comprends très bien que, n'est-ce pas, qu'on bouleverse, qu'on ne veuille pas s'assujettir à la chronologie, mais nous sommes bien obligés, avec Rimbaud, de prendre en considération, d'une part, la lettre du voyant, le rapport avec la commune, ensuite le rapport avec Verlaine, et cette phase si particulière en quoi consistent les derniers vers, qui sont un dégagement au niveau prosodique et au niveau un dégagement de la rime, une des premières fois un dégagement de la rime. Alors là, nous sommes dans une espèce de poésie des temps passés, hein, presque immémoriale. Elle est retrouvée, quoi, l'éternité, c'est la mer avec le soleil. Est-ce que c'est le même qui a fait Ophélie ? Bien sûr, c'est le même qui a fait Ophélie. Mais il est intéressant de voir que c'est d'abord lui qui fait Ophélie, et puis qu'ensuite il fait, elle est retrouvée, quoi, l'éternité. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle ? Justement, il s'est passé un certain nombre de choses d'un point de vue historique et du point de vue de la connaissance que Rimbaud a voulu avoir de lui-même.
Mais cette saisie,
c'est-à-dire
linéaire,
une transformation.
Mais justement,
de son
cette saisie linéaire de Rimbaud, cette restitution linéaire de Rimbaud, c'est vrai, votre biographie respecte sa linéarité tout en restituant aussi le chaos d'un individu. Et c'est d'une certaine manière un tour de force. Est-ce que cette saisie linéaire n'est pas contredite à la fois par le fait qu'il vante le lent raisonné des règlements de tous les sens, ça c'est la première hypothèse,
oui,
et deuxièmement, par le fait que il ait une existence lui-même en yo-yo et qu'il ne cesse de revenir à son point de départ. Et que d'ailleurs, il dit, elle est retrouvée, l'éternité. En d'autres termes, bien sûr, la forme est nouvelle quand il l'écrit, mais elle est retrouvée. Il a déjà mis la main dessus. Est-ce à dire, au fond, que est-ce que l'idée de procéder par aller-retour ou par va-et-vient à l'intérieur de la biographie de Rimbaud n'est pas plus fidèle à l'intimité d'une trajectoire qui ne cesse de revenir à son point de départ qu'à la linéarité d'un projet qui affirme la transformation du poète?
Oui, mais je crois qu'il faut respecter les deux choses, n'est-ce pas? Et ça, c'est évidemment très difficile, parce que nous sommes dans des questions de temps, n'est-ce pas? Rimbaud est parfois dans le temps de l'histoire, il est dans son temps personnel, et il est dans le temps de la poésie. Alors, c'est trois temps qui ont des difficultés à se conjuguer. Mais en même temps, quand on lit son œuvre, quand on voit sa vie, on s'aperçoit que ça se combine. Et l'endroit qui fait que ça se combine, c'est quand Rimbaud dit « il faut se rendre voyant ». C'est-à-dire, nous passons ici de la poésie rhétorique à la poésie active et à la poésie qui transforme l'individu. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une poésie nouvelle, il faut que l'homme devienne nouveau, n'est-ce pas ? Accède donc à d'autres endroits de la pensée. Dérèglement de tous les sens, par exemple. D'ailleurs, je ne sais pas très bien, ça reste très mystérieux, n'est-ce pas ? Quelle est cette hallucination par lesquelles il est passé ? On parle de matinée d'ivresse qui serait en rapport avec le hashish, ça ne serait pas...
Si le temps des assassins, oui. Il se termine par le temps des assassins, c'est-à-dire des consommateurs
des hashishins. Oui. Yves Bonnefoy a donné beaucoup d'importance à ça. Mais évidemment, Rimbaud dit qu'à côté de ça, il y a l'hallucination des mots, n'est-ce pas ? Il y a des quantités de formes d'hallucination. C'est-à-dire que le réel est facultatif, si on peut dire.
Pardonnez-moi, Jean-Luc Steinmetz, de refaire un retour en arrière, contrariant l'idée que vous nous donnez. C'est à vous que je dois d'avoir compris ceci, ou d'avoir découvert ceci. Un jour, Isambard, donc son prof, le croise en train de lire un Montaigne à la main. Le texte de Montaigne qu'il est en train de lire dit ceci, c'est une citation où Montaigne parle de Platon. Le poète, dit Platon, c'est Montaigne qui écrit, assis sur le trépied des muses, verse de furie tout ce qui lui vient en la bouche, comme la gargouille d'une fontaine, sans le ruminer et poiser. Et lui échappe des choses de diverses couleurs, de contraires substances et d'un coup rompu. Et la vieille théologie est toute poésie, disent les savants, et la première philosophie, c'est l'originel langage des dieux. C'est un extrait qui se trouve dans le chapitre des essais intitulé « De la vanité ». C'est le chapitre 9 du livre 3 des essais qui reprend le propos de Platon dans le Phèdre où il parle de mania poétique, de dépossession poétique. Est-ce qu'il n'y a pas ici, dans cette occurrence, Platon, Montaigne et Rimbaud qui culminent avec la lettre du voyant, une forme de tradition, une famille au fond, qui, et pardon de prêcher pour la paroisse des Nouveaux Chemins, mais n'opposerait pas tant que ça finalement philosophie et poésie, Jean-Luc Steinmetz?
Oui, mais il faut voir la façon dont Rimbaud s'empare de la philosophie. Hein, et je ne pense pas qu'il s'insère véritablement dedans. Il en tient compte. Là, vous parlez d'une anecdote qui est celle de Montaigne. Évidemment aussi, il connaît le banquet de Platon. Mais je ne pense pas qu'il faille accorder à Rimbaud une connaissance universelle des textes. Et c'est bien dans le domaine de la poésie qu'il s'insère davantage, n'est-ce pas ? Alors, ce qu'il va former, le comble de ce qu'il va former, c'est dans les Illuminations et c'est dans le poème Génie ou dans le poème Conte. C'est-à-dire que, bien entendu, l'inspiration compte pour lui, mais ce qu'il veut, c'est proposer aussi une espèce de guide à l'image de l'ancien Christ, n'est-ce pas ? Voir les proses évangéliques dont nous n'avons pas pu parler, mais une espèce de figure qui transfigurerait l'homme et lui ferait accéder à de nouvelles possibilités.
C'est l'épilogue des Illuminations, c'est la fin.
Dans la mesure où on peut classer les Illuminations. Ce qu'il faut voir, par exemple, c'est que pour Rimbaud, il y a cette formule La vraie vie, il y a des formules comme ça. On a commencé l'émission ainsi, n'est-ce pas ? La vraie vie est ailleurs. Bon, on avait parlé de la liberté libre. Bon, ben, parlons de la vraie vie est ailleurs. L'amour est à réinventer. Ce sont des choses, évidemment, essentielles. Et le génie semble apporter cet amour-là. En même temps, il s'efface au dernier moment. Il n'est pas là pour l'idolâtrie des hommes.
Mais est-ce que de ce point de vue, Rimbaud, c'est ce qui expliquerait peut-être d'ailleurs la postérité iconique de Rimbaud, cette façon qu'on a eue de le chosifier en courant d'air, finalement, une espèce de courant d'air officiel ou institutionnel. Enfin, la figure de l'adolescence, disons la meilleure excuse de l'adolescence. Rimbaud, est-ce qu'au fond, Rimbaud ne va pas, comme souvent les tempéraments prophétiques, du pressentiment d'un homme nouveau à la déception de constater qu'au fond, il n'arrive pas et qu'en définitive, il vaudrait mieux qu'il se marie.
Se marier, ça, c'est une autre affaire.
C'est lui qui le dit.
Oui, hein. il en parle tout à fait.
Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il dit de l'homme nouveau, hein, quand même.
Oui. Non, mais il dit ça lorsqu'il est dans une situation quasi désespérée au Harar ou à Aden. Hein. Et puis, il dit ça, il faut tenir compte de la correspondante aussi, du destinataire. Il dit ça à sa mère. Peut-être je vais revenir me marier, je vais gagner beaucoup d'argent et tout ça. Mais en même temps, il dit, il faudrait que cette femme accepte que je reparte aussi. Donc, la déception de Rimbaud, elle est à la mesure de ceux qui l'a rencontré et qui n'ont pas pu l'entendre. Et c'est encore ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est que nous faisons beaucoup de bruit autour de Rimbaud. Mais je connais peu de personnes et qui l'aient lu bien, enfin, qui, avec tout ce que supposent les derniers textes. Par exemple, il y a la partie Léo Ferré, n'est-ce pas ? Mais la partie Une saison en enfer, qui est l'un des plus grands livres de l'Occident, c'est une auscultation de l'Occident à travers un individu. Alors, Rimbaud parle de lui-même, mais en même temps, il parle de tout ce qui est impliqué par un jeune homme qui va entrer dans la société, dans la vie civile, à l'âge de 20 ans.
Eh bien, nous aurons cette semaine, Jean-Luc Steinmetz, l'occasion d'évoquer Une saison en enfer, comme d'ailleurs les Illuminations. C'est au programme de cette semaine dont on se réjouit à l'avance. On va clore cette émission en évoquant par les textes. C'est Jérôme Kircher qui va le lire. D'abord Jacques Bonafé qui lit un télégramme, puis Jérôme Kircher qui lit un texte, une lettre à Isabelle, terminé par l'épisode que nous n'avons pas évoqué. Nous n'avons pas parlé de l'exil africain de Rimbaud. D'autres vies et d'autres émissions le permettront. Mais l'épisode ultime de l'amputation de Rimbaud, car Rimbaud est mort sur une seule jambe. Merci Jacques. Merci Jean-Luc, pardon.
Merci. Marseille, 22 mai 1891, 2h50 du soir. À Madame Veuve Rimbaud. Aujourd'hui, toi ou Isabelle, venez Marseille par train express. Lundi matin, on ampute ma jambe. Danger mort. Affaire sérieuse à régler. Arthur, hôpital Conception. Répondez. Rimbaud.
Je suis toujours levé, mais je ne vais pas bien. Jusqu'ici, je n'ai encore appris à marcher qu'avec des béquilles. Encore, il m'est impossible de monter ou descendre une seule marche. Dans ce cas, on est obligé de me descendre ou monter à bras-le-corps. Je me suis fait faire une jambe en bois, très légère, vernie, rembourrée, fort bien faite, prix 50 francs. Je l'ai mise il y a quelques jours. J'ai essayé de me traîner en me soulevant encore sur des béquilles, mais je me suis enflammé le moignon. J'ai laissé l'instrument maudit de côté. Je ne pourrai guère m'en servir avant 15 ou 20 jours, et encore avec des béquilles pendant au moins un mois, et pas plus d'une heure ou deux par jour. Le seul avantage est d'avoir 3 points d'appui au lieu de 2. Je recommence donc à béquiller. Quel ennui, mais quelle fatigue, quelle tristesse en pensant à tous mes anciens voyages, et comme j'étais actif il y a seulement 5 mois. Où sont les courses à travers monts, les cavalcades, les promenades, les déserts, les rivières et les mers. Et à présent, l'existence d'un kudjat. Car je commence à comprendre que les béquilles, jambes de bois et jambes mécaniques, sont un tas de blagues, et qu'on arrive avec tout cela qu'à se traîner, misérablement, sans pouvoir jamais rien faire. Et moi qui justement avais décidé de rentrer en France cet été pour me marier. Adieu mariage, adieu famille, adieu avenir. Ma vie, elle est passée. Je suis qu'un tronçon immobile.
Une chambre de bois qui cherchait un amateur. Elle se dit, ma foi, si personne ne veut de moi, je me fous une balle en plein cœur. Mais voilà que soudain, elle entend au loin une sonnerie de clairon. Elle se dit, parfait, c'est le moment ou jamais de me trouver une situation. Arrivée sur le champ de bataille, au plus fort de la mitraille, elle croise un boulet de canon qui sifflait à plein poumon. Elle lui dit, mon pote, ta petite gueule me botte, toi qui vas tuer les Cosaques, sois donc un amour, fais pour moi un petit détour avant de partir à l'attaque. Mais voilà le hic, j'aime pas les moujiques, et si tu veux m'arranger, tourne plutôt casaque, passe du côté des Cosaques, vise-moi cet officier français.
Allez, on quitte le champ de bataille, on retrouve tout de suite le journal des nouveaux chemins de la connaissance. Adèle Vanrette, bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. Souvent, la philosophie naît de ces moments d'interrogation troublants où l'on réalise que rien ne fait sens, que les choses n'ont aucun fond et que si l'on est honnête avec soi-même, on sait bien que la plupart de nos questions ne trouveront jamais de réponse. Ainsi conçue, la philosophie est un exercice du vertige entre détresse et euphorie. Bonjour François Gachou.
Bonjour.
La philosophie comme exercice du vertige, c'est le titre de votre livre qu'on trouve aux éditions du Cerf, dans la collection La Nuit Surveillée. Et en un sens, tout est dans le titre, puisque vous partez de cette expérience de vertige, donc de basculement absolu, basculement non seulement de la raison qui s'égare dans les questions, mais également de l'existence elle-même. C'est ce basculement qui fait qu'on n'arrive plus à rattacher l'existence à un socle stable. Et donc vous partez de cette expérience du vertige pour explorer, dites-vous, les territoires qui s'ouvrent à partir de... lorsque surgit le vertige. Est-ce que ça veut dire, François Gachou, que cette expérience désagréable mais surtout violente et déboussolante qu'est le vertige serait la condition même de la philosophie ?
Cela peut être. Je dirais que, au fond, la grande question, quand on est un être humain, n'est-elle pas d'apprendre ? Apprendre à exister ? Apprendre à connaître, à vivre, à aimer, à être libre, en nous confrontant aussi avec des questions limites comme l'angoisse, le temps, la mort. Je suis persuadé, après avoir longtemps enseigné la philosophie, qu'au fond, nous sommes tous philosophes, dès là que nous nous laissons interpeller par les grandes questions de la vie. Mais alors, il faut qu'elles viennent à nous. Il faut qu'on apprenne à s'interroger. Et il y a une grande tradition philosophique qui démarre chez Platon déjà, qui dit qu'au fond, pour devenir philosophe, il faut d'abord savoir s'étonner. Alors je me suis interrogé un peu plus avant en me demandant s'il n'y avait pas une autre expérience peut-être un peu plus impérative, peut-être plus forte, qui m'a été inspirée par le philosophe danois Søren Kierkegaard, qui dans son traité de l'angoisse dit qu'au fond, si on n'a pas été vraiment remué au fond de nous-mêmes par une expérience intérieure, il est difficile de devenir vraiment philosophe. Mais nous pouvons tous l'être. Je suis personnellement convaincu que les savoirs abstraits, purement abstraits, nous enseignent peu. Et puis, souvent, ces traités universitaires sont réservés à une élite. Mais je crois que nous ne comprenons bien que ce que nous expérimentons nous-mêmes.
Et pourtant, le vertige lui-même, à la différence de l'enseignement, justement, n'est pas reçu de l'extérieur. C'est une expérience que l'on ne décide pas de faire ni d'avoir. Donc, comment faire ? Peut-on provoquer un vertige ou est-on nécessairement victime et passivement victime de ce vertige-là, François Gachou ?
Oui, alors d'un côté, il y a des vertiges qui viennent à nous sans qu'on les recherche, c'est-à-dire qu'ils sont imprévisibles. Je pense par exemple à la notion de contingence en philosophie. Contingence signifiant tout simplement que nous aurions pu être ou ne pas être. Quel est ce mystère et pourquoi suis-je là ? Et puis ensuite, avec ma raison et ma liberté, comment vais-je construire ma trajectoire ? Et si la liberté elle-même implique toujours de grands choix, elle implique aussi de grands risques et donc provoque également un certain vertige. Alors, il y a un aspect négatif du vertige, parce que c'est un certain mal-être dans le questionnement. Nous sommes déstabilisés. Vertere en latin veut dire retourner l'esprit. Donc, je verrai le vertige là comme un ébranlement de tout notre être, plus profond que l'étonnement, avec quelque chose d'originel et aussi d'indéfinissable, puisqu'il y a une part de mystère. La raison perd pied, nous vacillons de nos assises, notre équilibre est rompu, il y a une certaine perte de maîtrise. Donc, c'est vrai que c'est un sentiment assez désagréable, mais d'un autre côté et positivement, le vertige nous met devant la question. Nous sommes empoignés par elle, nous ne pouvons pas l'éviter. Et alors, elle a cet avantage de nous arracher au confort.
Voilà, ça c'est la vertu salvatrice du vertige qui nous arrache de ce confort, de cette plénitude d'être, cette insouciance, puisqu'elle nous met face au vide et à l'absence de sens de l'existence. Et donc, à partir de là, c'est ce que vous dites, le vertige devient comme cette table rase qui permet ensuite, qui devient un lieu d'éveil et qui permet l'exercice d'un travail sur soi.
Voilà, travail sur soi dans le sens où cet arrachement à nos habitudes, aux conventions, disons à la platitude qui se déroule souvent dans nos vies, nous provoque à l'authenticité. Je pense bien entendu à l'acte de liberté, parce que je crois que c'est d'abord cela qui définit l'homme, peut-être plus que la raison elle-même, la raison raisonnante, mais la liberté qui nous jette devant une invention de nous-mêmes sans que nous puissions nous priver de certains grands risques. Donc le vertige, c'est au fond l'expérience d'une disponibilité à accueillir ce qui nous arrive pour construire à partir de là un soi et un soi en relation avec les autres et bien sûr avec la société. C'est aussi une ouverture aux interpellations de la vie, aux manifestations insoupçonnées de celle-ci, aux rencontres. Les grandes rencontres dans notre vie ne sont-elles pas la plupart du temps imprévisibles ? Et nous sommes comme jetés en avant dans l'obligation d'improviser quelque chose. C'est aussi ce vertige positif, un appel au remodelage de nos vies, aux vertus aussi du rebondissement, quand on parle par exemple de la résilience.
Donc passer la détresse initiale du vertige, celui-ci peut vraiment devenir le lieu d'une création, la création de sa propre vie. C'est ce que vous montrez bien dans votre livre, François Gachou. Vous abordez 15 types de vertiges différents dans ce livre. Vertige de connaître, du désir, d'aimer, vertige de mourir, vertige de l'angoisse, vertige de la foi. Je renvoie les auditeurs à ce livre qui s'appelle « La philosophie comme exercice du vertige ». Et on trouve ça aux éditions du Cerf. Merci d'être venu en parler aujourd'hui, François Gachou.
Et moi, je renvoie les auditeurs à votre bibliothèque, Adèle, où on trouvera aujourd'hui un volume sur Proust et Beckett.
Et voilà, qui propose un rapprochement inédit entre deux écrivains philosophes. Le premier est aussi connu pour ses phrases qui se déroulent en circonvolutions infinies, que l'autre pour son écriture laconique et minimaliste. Mais si la forme et le style diffèrent, pourtant une même vision du monde les unit, même si cela peut paraître surprenant puisqu'il s'agit de Marcel Proust d'un côté et de Samuel Beckett de l'autre. Entre Combray et Dublin, entre Albertine et Winnie, entre Contre-Sainte-Beuve et Fin de partie, a priori rien à voir. Et pourtant, nous dit François-Bernard Michel, l'auteur de ce livre, les œuvres de Proust et de Beckett sont liés par un même humanisme, dont témoigne leur vulnérabilité. Car malgré ces différences évidentes, tous deux partagent ces misères humaines que sont le souffle coupé ou le cœur folâtre. Manifestation on ne peut plus banale d'une âme tourmentée, dit-il. Je rappelle que l'auteur, qui en plus d'être écrivain, plutôt je vous informe, en plus d'être écrivain, essayiste et poète, est aussi médecin spécialiste du souffle. Pour ceux qui seraient encore sceptiques, je vous rappelle là pour le coup que le premier livre important publié par Beckett à l'âge de 25 ans était un essai sur Marcel Proust. Donc je vous laisse découvrir ce très beau livre intitulé Proust et Beckett, deux corps éloquents. On trouve ça aux éditions Actes Sud et l'auteur c'est François-Bernard Michel.
Voilà, merci à tous Rimbaud, Le Vertige, Proust et Beckett, c'était l'expérience intérieure du jour. Une émission qui, si on l'avait enregistrée tout à l'heure, eût été toute différente. Les mots nous seraient venus selon d'autres hasards, d'autres nécessités, vertige donc, de ce qui aurait sérieusement pu ne pas être. Une émission que vous pourrez retrouver sur Internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance où vous attendent comme tous les jours le téléchargement des émissions de la semaine, l'écoute en ligne des émissions précédentes ainsi qu'une bibliographie aussi précise que possible. Un grand merci à Jérôme Kircher dont la lecture nous accompagnera toute la semaine, à Théodore dont la présence aujourd'hui fait bien plaisir, à Élodie enfin, une rimbaldienne par excellence dont vous n'aurez que le prénom mais qui se reconnaîtra et à qui je dédie bien volontiers l'émission du jour. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine rimbaldienne de 10h à 11h comme tous les jours du lundi au vendredi.